Bonjour. Installez-vous, nous allons écouter la parole de Dieu. Je demanderai mon frère Cédric si tu veux bien prier pour ce temps, que nos cœurs soient bien disposés à l'écoute.
Éternel notre Dieu, Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence. Car je voudrais commencer par te remercier pour la vie de destin, le témoignage qu'il a fait au Dieu de gloire. Père, je te le recommande pour la suite. Le chemin, Père, dont nous l'avons chanté, n'est pas facile, Seigneur. Mais avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs.
Alléluia.
Parce que toi, Seigneur, tu as accompli, ô Dieu, sur la croix. Et Père, à présent, nous commençons à rentrer, Père, dans l'écoute de ta parole. Père, voici ton fils, marque pour l'éternel. Père, je te le mets devant toi, afin que je puisse le conduire dans tout ce qu'il va nous prêcher, Seigneur, ce matin. Et Père, nous qui allons le recevoir, l'écouter, ô Dieu, que nous puissions, Père, disposer nos cœurs, Père, à l'écoute de ta parole. Père, fais taire, Père, tout ce qui n'est pas de toi, en cellule. Père, tout ce qui n'est pas de toi, Père, puisse être taire et chassé, Père, par le nom de Jésus. Ô Éternel, Père, nous allons rester ici, dans l'écoute de ces moments de parole éternelle, afin que, Père, nous puissions encore grandir, Père, dans la foi. Oui, Seigneur, le chemin est fait de sa manière que Père nous puisse encore élever, Père, s'élever dans ta présence, afin que Père nous puisse être en conformité, Seigneur, avec toi, afin que nous puissions être dignes, Père, de te louer et de te prier parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen.
Amen. Merci Cédric. Merci à Destin pour son témoignage, parce que ce qui est important, c'est ça, c'est parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Moi, j'ai eu la chance de vivre, il n'a pas donné l'état, des miracles, et celui de Mireille, le lendemain, ils sont arrivés, la famille de Destin. Et début septembre, je vous ai apporté un message sur la nouvelle identité en Christ. Et il se trouve que mon frère me l'a dit, et j'ai eu la chance de voir ce qui s'est passé, c'est que c'est ce jour, cette semaine-là, où il est allé à l'Ophi, où c'est le FPRA, puisque mon dit, c'est pour le fils de la fruit, pour lui donner. Et il avait gardé secret, il l'a montré. Alors nos larmes sont coulées parce que le Seigneur a répondu, parce qu'ils étaient certains que ce que Dieu a fait dans la vie d'Estin était un témoignage. Il lui donne une nouvelle identité. Et c'est quelque chose de fort parce que c'était juste ce passage que vous avez expliqué en septembre à partir de Colossiens 2, verset, en particulier 6 et 7. Je vais juste les relire pour nous remettre parce que nous allons voir la suite. En 2, 6 et 7, il était écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Alors, j'avais expliqué que lors de notre conversion, Christ, c'est comme ça que je l'ai expliqué, illustré, nous donne une nouvelle identité. En fait, il nous donne une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, vraiment le parallèle m'a marqué, parce que je l'ai appris juste après pour Destin, c'est comme si vous étiez étranger en Centrafrique. Il ne l'a plus d'ailleurs, il n'a plus l'identité de Centrafrique. Hein. Selon la loi, il ne peut même pas se référer à aller chercher un acte d'état civil là-bas. C'est uniquement la France. La France donne une nouvelle identité. Eh bien, Jésus nous a donné aussi une nouvelle identité. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit maintenant, c'est de marcher par en lui. Et c'était ça que je voulais continuer. Mais l'identité, c'est une chose, mais Destin et sa famille, alors pour ceux qui sont un peu plus spécialistes dans l'accueil des réfugiés, il m'a parlé, je ne savais pas que ça existait, il doit signer avec son épouse un contrat, comme on appelle ça, un contrat républicain. Et j'ai pensé à ça en pensant ce que j'avais expliqué. C'est un peu comme si avec Jésus, nous devons, une fois que nous avons la nouvelle identité, ça ne suffit pas si tu ne respectes pas le contrat. Nous, on a un contrat avec Jésus, on a un contrat avec le ciel, on a une alliance. Mais ce qu'il nous demande, c'est cela, de marcher pas à pas. Frères et sœurs, cette nouvelle identité n'est que le début de notre nouvelle vie chrétienne. Mais ces papiers d'identité, vous les avez. Cette identité, comme Destin, vous l'avez, et vous l'avez pour l'éternité. Et ce matin, je vous propose de plonger nos regards dans la suite de ce passage qui nous montre comment Jésus a gravé définitivement cette nouvelle identité en nous en lisant Colossiens 2, les versets 11 à 15, qui sera la méditation de ce matin. Colossiens 2, versets 11 à 15. Je vais le lire pour vous. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jusque-là pour la lecture de ce matin. Nous prions. Seigneur, merci de ce que travers ta parole, on l'a vu ce matin, c'est comme du pain pour nous nourrir. Que cette parole nourrisse nos cœurs ce matin, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, que personne ne voit ton serviteur qui parle, mais juste attentif à ce que toi tu veux dire à chacun. Non pas moi, Seigneur, mais toi, Seigneur. Seigneur, par ton Saint-Esprit, éclaire chacun ce matin, au travers peut-être ce que j'ai réfléchi, préparé, mais qu'il parle à chacun pour édifier, pour faire croître, pour sauver. Car ta parole est le pain de vie. Elle sauve, elle guérit. Seigneur, que par ton onction, Seigneur, tu parles à chacun qui est assis ce matin ici, et que tu fasses l'œuvre que tu as prévue toi-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce passage, je trouve, nous montre comment Jésus a scellé définitivement notre nouvelle identité par ce que j'ai appelé, alors c'est mon interprétation, on peut l'interpréter différemment, la circoncision du cœur. Donc j'ai appelé ce message la circoncision du cœur. En effet, au verset 11 que nous allons relire, au voyant le début du verset, il est écrit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ. » Donc, il est bien écrit que c'est Christ qui nous circoncis. Et qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Alors, on essaie de le comprendre. Humblement, chacun peut essayer de comprendre, mais pensons à la circoncision. Le mot de la circoncision vient, comme vous le savez, de l'Ancien Testament, ou si vous ne le savez pas, pour certains c'était dans l'Ancien Testament, et a été donné tout d'abord à Abraham comme un signe extérieur de l'alliance qu'il fait. C'est la première alliance. On appelle ça l'alliance abrahamique. C'est un grand mot pour dire c'est l'alliance avec Abraham. Pour sceller l'alliance, Jésus dit de circoncire. Donc il fait quelque chose dans la chair des enfants et des hommes. Et plus près de nous, après la sortie d'Égypte, comme vous le savez, Dieu fait sortir le peuple et il leur donne les tables de la loi, sur le mont Sinaï. Mais après cela, il va demander que tous les hommes soient circoncis en signe d'appartenance à son peuple. Donc la circoncision, c'est un signe physique d'appartenance. Vous voyez où j'en viens. C'est plus qu'une nouvelle identité. Je suis hébreu, mais maintenant je te marque dans ta chair. Donc il a fait une circoncision. Donc c'est un mot. Alors, il est dit, c'est dur à expliquer, Il dit que Christ nous a circoncis. C'est quoi cela? Pour le peuple d'Israël, ce qui va se passer, c'est que vous le savez, ils ne vont pas obéir à toute la loi. Ils ne vont pas faire tout ce qui est dit pour la terre promise. Ils vont désobéir à la loi. Bon, beaucoup de passages nous montrent qu'ils vont faire le veau d'or, ils vont aller dans le désert, ils vont se battre entre eux. Et Dieu envoie des prophètes. Des prophètes pour les avertir. Et notamment, il envoie le prophète Jérémie, qui fait cette déclaration qui nous éclaire un petit peu sur ce que va faire Dieu dans la suite. C'est un avertissement pour le peuple d'Israël qui est reprise dans l'Épître aux Hébreux. Alors, on lit Jérémie 31 à 33. Alors, Jérémie 31 à 33. Alors, si vous ne l'avez pas, vous trouverez vos Bibles dans Jérémie 31 à 33. Voilà. 31, alors c'est pas 1, c'est 31, 33. Pardon, c'est 31, verset 33. Je suis bien. Voilà, merci beaucoup. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc c'était toujours pour eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, ma loi sera au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il est dit qu'un jour il va écrire la loi dans le cœur du peuple. Ah, premier élément. C'est pour ça que j'ai dit que cette circoncision, selon moi, je l'interprète, mais on peut en discuter, comme la loi qui est gravée non plus sur les tables de la loi qu'ils avaient sous les yeux, qui est dans la Bible, mais directement dans des cœurs transformés. Et ces cœurs, quand on grave la loi, imaginons un instant qu'on grave la loi dans le cœur, les textes de la loi, ou ce que Jésus veut pour nous, ça ferait mal, hein, ça ferait saigner, un peu comme la circoncision. Alors, je ne sais pas si c'est très douloureux ou pas, mais ça quand même ne doit pas faire vraiment du bien, quand même. Hein. Et bien là, c'est dans notre cœur. Alors oui, frères et sœurs, Jésus circoncit les cœurs et c'est douloureux. Parce que pour circoncire le cœur, il faut la repentance. C'est rare qu'ils connaissent une repentance qui ne soit pas douloureuse, qui ne soit pas dans les pleurs. Oui, ça fait mal. Et surtout, ça fait beaucoup de mal. Le sang qui a saigné de notre cœur, n'est-ce pas les souffrances de Christ à la croix. Il grave dans ton cœur cette nouvelle loi, la loi de l'amour. Mais il le fait au prix de son sang. Ainsi, si on prend cette image, en gravant la loi de notre cœur, oui, nous sommes la nouvelle Israël qui a été greffée, comme le dit Paul, au tronc des chrétiens. Nous sommes ceux-là, et Christ ne nous fait pas en plus cette circoncision, mais il fait une circoncision du cœur. Et il l'a fait de façon indélébile. Et c'est bien plus que des papiers d'identité, même si c'est important. C'est ce que je pense, on peut comprendre dans notre verset, Galates 6, verset 15. Ce qu'il dit dans verset 4, finalement ce que dit Paul, parlant de la circoncision de la chair. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Mon interprétation, c'est que la circoncision que nous recevons, que j'explique dans du cœur, par celle-ci, nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est pas que les papiers d'identité. C'est un signe d'authenticité qui est dans votre cœur. Fréquenter une église ou se réclamer de Christ ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Seule la circoncision du cœur marque véritablement notre appartenance à Christ. N'est-ce pas finalement cela que Jésus a voulu expliquer au sage Nicodème, lui qui était expert de la loi, mais qui voulait savoir comment on avait la vie éternelle? Revoyons ce que Jésus lui répond en Jean 3, 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça. S'il ne devient pas une nouvelle créature, il y a une nouvelle naissance. Il y a eu un grand mouvement, on a beaucoup parlé des chrétiens, et des chrétiens nés de nouveau. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. C'est ça, cette nouvelle naissance, la circoncision du cœur. Et j'irai même plus loin en prenant ce que dit un autre prophète, Ézéchiel. C'est même plus qu'une circoncision si on prend Ézéchiel. Regardez ce qu'Ézéchiel dit au peuple hébreu au verset 36-26. Ézéchiel 36-26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Prenons un instant cette image. Imaginez Jésus comme le grand chirurgien. Il ôte notre cœur, il ne fait pas que le circoncire, il l'enlève. Et il parle d'un cœur de pierre, un cœur qu'il ne voulait pas comprendre. Et il met à notre cœur un cœur de chair. Or, le cœur est très très important dans l'Ancien Testament, même si, je ne sais pas vous dire, ce n'est pas le cœur physique, bien sûr, parce que notre cœur physique, on l'a là, c'est une autre chose, on ne peut pas rentrer dedans, qui est ce cœur. Mais c'est très important le cœur, parce que lisons le Proverbe 4, 23. L'Ancien Testament nous dit que le cœur est là, comme la racine de la vie. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur, non seulement Jésus l'a circoncis, il le change. Wow. Jésus a changé. On veut changer ton cœur parce que c'est de ton cœur que viennent les mauvaises choses. Ta vie, tu dois naître de nouveau. C'est de ton cœur, c'est de l'homme que sort la source du mal. Mais, gloire à Dieu, Jésus fait cette opération. C'est un peu, j'ai bien aimé ce qu'a dit Charles Nicolas, qui vraiment nous a vraiment enseigné, pour ceux qui l'ont entendu avec force, puissant, parce qu'on a beaucoup encouragé, un peu la même chose, du cœur par le sang. Il nous a parlé du passage que j'ai beaucoup aimé, qu'on connaît tant, mais du sel et des sarments, Jean 15, 5. Et j'ai pensé que c'était un peu la même image. Il est dit, ce qu'il nous a expliqué, sans le sel, le sarment ne peut rien faire. Tout vient du sel, c'est la sève qui coule. Et là, j'ai pensé, c'est le sang qui coule dans nos veines. Ce sang qui coule, c'est ce sang qui vient du cœur nouveau, il va dans tout notre être. Car il est dit, le relisons, « Je suis le sel, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, sans le sel. Et j'aurai parallèle pour dire, sans ce cœur nouveau, on ne peut rien faire. Sans ce cœur nouveau. Et peut-être qu'il y a de la souffrance pour avoir ce cœur nouveau. Donc, vous voyez que c'est plus fort que des papiers d'identité, quand même. Et ce texte continue à expliquer en quoi consiste la circoncision de notre cœur, qui est douloureux. Parce que c'est expliqué dans la suite du verset 11, cette greffe. Il est dit, au verset 11 que je relis, la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, il est quand même dit ce que c'est. On peut dire que c'est une circoncision. La circoncision, c'est se dépouiller du corps de la chair. Ah, notre vieille nature pécheresse. Oui, la chair, c'est la source de nos péchés. Tous, Paul dit, est ce corps de chair, il sait ce combat entre la chair et ce nouveau cœur, ce nouveau être, ce nouvel esprit de Dieu. Eh bien, nous devons changer notre manière de vivre. Oui, c'est que le début de la chrétienne. La conversion n'est que le début. Et même cette suite-là, peut-être, elle est dans la souffrance, mais ces larmes, je peux vous le dire, ce sont les larmes de joie qui moissonnent pour la vie éternelle. de se dépouiller de sa nature pécheresse. C'est cela à quoi nous sommes appelés, nous dépouiller de notre vieille nature pécheresse, c'est cela la circoncision du cœur. Et ce n'est pas le fruit de sacrifices ou d'efforts religieux, comme beaucoup la religion a vu. Je ne sais pas, on se, ouais, jusqu'à se flageller, se torturer, mais oui, ce n'est pas des sacrifices. Dieu ne demande plus des sacrifices. Non, il nous libère de notre vieille nature. Comment ? En endossant chaque jour notre nouvelle nature en Christ. Il nous faut l'endosser chaque jour, cette nouvelle nature. Et le verset 12, du coup, explique comment on a fait ça. On relit le verset 12. Comment on tue cette vieille nature, hein ? Luther disait, j'ai voulu la noyer par le baptême, mais le bougre, il s'est bien nagé, hein, n'est-ce pas ? Le verset 12 nous explique ce qui s'est passé à ce moment-là. Ayant enseveli avec lui par le baptême, vous avez été enseveli avec Christ par votre baptême. Et vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voilà la nouvelle naissance. Voilà comment on se dépouille de son corps de chair en l'ensevelissant par le baptême avec Jésus. Dans la pensée de Dieu, lorsque Jésus est mort à la croix, et ceci bien avant notre naissance, nous avons été ensevelis avec lui. Dans le baptême en sa mort. C'est ça, dans le baptême en sa mort. Autrement dit, nous sommes morts à notre vie de péché, notre vie de la chair, et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà ce que dit le verset 12. Vous êtes morts, vous êtes ressuscités. Ceci est devenu effectif le jour où nous avons cru au sacrifice. Voici. Et voici donc un signe visible de la circoncision du cœur. Parce que, effectivement, c'est changer de vie, la partie visible, une vie transformée. Et il y en a une autre qui est expliquée dans le verset 13. C'est notre baptême. Belle image du baptême d'eau. Où l'homme tout entier plongé dans l'eau, comme dans la mort, s'immerge. S'immerge en voyant ses vieux péchés et il revient à la vie. Ce baptême, c'est votre nouvelle histoire. Dans votre nouvelle identité, votre nouvelle histoire en Christ. Votre histoire a commencé au jour de votre baptême en Christ. Se dit verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire, j'étais mort. Véritablement, pour l'éternité, j'étais mort. Mais voilà, il y a 2000 ans, je suis ressuscité avec Christ parce qu'il a pardonné tous mes péchés. C'est pour ça que l'histoire et le témoignage à notre baptême est très important à garder. Alors, lors du baptême, il y a des témoignages très forts. On en a eu quelques-uns, parce qu'on en a eu beaucoup ici. Et certaines personnes qui ont été guéries d'une addiction, qui ne pouvaient pas s'ébrasser, qui ont un témoignage de personnes guéries d'une maladie. Amen, et gloire à Dieu pour cela, cela nous montre la puissance de Dieu. Mais c'est fort, mais aussi des témoignages de chrétiens qui semblent moins forts. Est-ce cela ? Je pense à plusieurs qui nous ont témoigné, peut-être Jean ou une personne au fond, voilà. Et qui dit, voilà, moi j'étais toujours dans une famille chrétienne, j'ai pas fait trop de bêtises, je suis allé au culte, j'ai suivi l'enseignement. Mais eux aussi, un jour, ils ont découvert qu'ils avaient besoin du salut pour leur péché. En fait, c'est ceux-là aussi qui étaient dans une famille chrétienne, ils ont un témoignage extraordinaire pour le monde. Voici votre témoignage et notre témoignage. J'étais mort. J'étais mort à cause de mon péché. C'est cela qu'on doit témoigner aux autres. Votre seul témoignage, c'est j'étais mort. J'étais pécheur. Mais il y a 2000 ans, vous savez, je suis ressuscité. Tu peux le dire J'étais ressuscité il y a 2000 ans avec Christ. Alors, est-ce que ce n'est pas fort, ce témoignage? Moi, je ne sais pas, vous en êtes, pour certains, avec cette question de baptême. Mais si vous pouvez dire oui, je suis Jésus, je peux dire son histoire est devenue mon histoire. Alors, je vous encourage à faire ce pas du baptême. Car le baptême, c'est le signe visible pour le monde, les gens autour, mais aussi pour toutes les autorités invisibles, les puissances invisibles, pour dire, voilà, je témoigne de mon nouvelle identité et de ma nouvelle histoire. Je suis mort au péché. Je veux maintenant vivre pleinement en marchant et en abandonnant mon problème. Et nous devenons, dans le ciel, une nouvelle création. C'est ça, ta nouvelle naissance. Une nouvelle création. On arrive au verset 14 que notre chef Blanche a expliqué plusieurs fois de façon très claire. Je ne suis pas sûr de savoir l'expliquer aussi bien qu'elle. Le verset 14 peut paraître compliqué. Pour moi, il explique quelque part ce qui se passe en termes juridiques. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ça peut paraître un peu obscur, mais reprenons-le. Effectivement, il nous dit ici qu'on a un acte qui nous condamne. C'est quoi cet acte? Eh bien, cet acte, c'est l'acte de jugement de Dieu pour notre vie. En effet, il est dit clairement dans la Bible, à plusieurs passages, je vais juste citer Hébreux 9, 27, que les hommes vont tous passer en jugement pour ce qu'ils ont fait sur la terre. Je crois que beaucoup de gens, on peut oublier cela. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jugement de Dieu, c'est tout ce qui a été accumulé de notre vie, de tout ce qui était contraire, pas beau, pécheur, même petit aux yeux de Dieu, et tout ce que nous n'avons pas fait de bien qu'on aurait dû faire, peut-être que le Seigneur voulait qu'on fasse cela. Imaginez qu'un procureur dresse cette liste. Hein. Mais cette liste, quelque part, c'est effrayant, c'est terrifiant. Cette liste existe. Et elle conduit à quoi? À une ordonnance. L'ordonnance, c'est le résultat qui va venir du jugement. Une condamnation pour l'enfer éternel. Et une petite fille, elle a dit tout à l'heure, elle a bien compris. Alors je sais, ça choque parce qu'on ne peut plus dire dans les écoles qu'il y a un enfer, hein, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'enfer. Mais sauf que, frères et sœurs, nous ne nous y trompons pas. Ce Dieu juste et saint, et va juger les hommes pour leurs actes. Et on voit tout ce qui se passe, oui, nous serons jugés. Et lors de ce jugement, si nous gardions cet acte, même pour nous, nous serions condamnés à l'enfer éternel. Ce qui est très clairement dit dans la parole de Dieu. Mais prenons bien ce qui est écrit ici. Si nous avons Jésus, alors cette ordonnance de condamnation qui existe, eh bien, Jésus l'a effacée, ou plutôt, il l'a cloué à la croix. Cet acte, il l'a cloué. Quand je suis en Christ, quand je suis en Christ avec ce nouveau cœur, je suis parfait aux yeux de Dieu. Tout est pardonné, tout est vraiment pardonné. Tous les péchés, c'est cloué à la croix. C'est terminé. Waouh! Est-ce que chacun, est-ce que nous comprenons vraiment cette promesse de la nouvelle alliance? C'est cela la bonne nouvelle pour l'évangile. C'est cela la grâce seule prônée par le protestantisme en France. Nous n'y sommes pour rien. C'est Jésus seul qui l'a fait. Alors il nous faut accepter la plénitude de cette œuvre et marcher reconnaissant. Non plus sur la loi, mais sous la grâce. J'aime souvent citer Éphésiens 2, 8, pour nous rappeler que ce n'est rien qui vient de nous. Voilà, je crois que vous expliquez Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il y a une conséquence très forte, décrite au verset 15. C'est pas il est juridiquement effacé. Et 15, il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'avec cette nouvelle identité, nous partageons l'ultime victoire sur les forces mauvaises. C'est ce que veut dire ce texte ici. Il y a des forces spirituelles, invisibles, hostiles à notre vie en Christ. Ne soyez pas surpris de l'hostilité qu'il peut y avoir. Il y avait ce chant qui disait il faut savoir s'offrir pour aller jusqu'au bout, il faut avoir l'hostilité des autres, l'hostilité de toute part. Et nous ne sommes pas forcément au contrôle de ces choses qui peuvent influencer nos vies. Ces forces, ces puissances, elles avaient effectivement ou elles ont un droit d'accès dans notre vie quand nous sommes dans le péché. Mais c'est le péché qui donne le droit d'entrer à ces forces, à ces puissances mauvaises, à ce mal. Mais si Jésus me pardonne et me lave de mes péchés, ces forces, elles n'ont plus aucun droit d'accès. Puisque l'acte qui me condamnait a été coulé sur la croix, ça veut dire que je ne suis plus sous l'emprise du mal, venant des hommes ou de Satan. Il faut juste avoir endossé chaque jour cette nouvelle nature. Oui, il faut chaque matin, chaque jour, réendosser cette nouvelle nature, cette nouvelle création. Et alors, nous pourrons rejeter tout mal avec la puissance de Christ. Il y a le défi qui disait, moi, penchant la tentation, arrivé, je demande à Jésus d'aller à ma place. Faites cela. Demandez à Jésus d'aller à votre place. Jésus nous entend et notre avocat. Demande à Jésus d'aller à ta place au combat. Il est là, il est devant toi. C'est ce pas ce qu'on a chanté. Et si nous sommes dans la tourmente, nous pouvons revendiquer, comme Christ l'a fait, cette nouvelle identité. Alors que nous sommes dans ce combat, et même Jésus l'utilise souvent en disant « Arrière de moi, Satan, tu ne peux rien contre moi. » Oui, même si tu es bien raison, tu ne peux rien contre moi. « Voici mes nouveaux papiers d'identité. Je suis français. Le plus grand, je suis citoyen du royaume de cieux, circoncis par la main même de Christ, une nouvelle créature promise à la vie éternelle, dont l'acte de condamnation a été effacé à jamais. Tu ne peux rien contre moi. » C'est pour ça que ça ridiculise les forces du mal. Même si nous sommes dans le combat, elles sont vaincues, nous en partagerons la victoire. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la peur des autres, dans la peur du mal, dans la peur des choses invisibles qui pourraient nous faire du mal. Parce qu'en Christ, nous partageons pleinement sa victoire. En résumé, ce passage qui peut paraître assez compliqué de Colossiens, le passage de Paul, cette partie, elle nous donne, selon moi, quelques enseignements très forts et puissants pour vivre notre nouvelle vie en Christ, que je résumerai en quatre points. On a vu. Le premier point, à notre conversion, Jésus lui-même circoncis, nous circoncis en nous donnant un cœur nouveau. Nous devenons une nouvelle créature en Christ. C'est plus que juste des papiers d'identité. C'est pas juste le secret. Première chose. Deuxième chose, avec ce nouveau cœur, nous devons marcher avec Jésus et nous dépouiller sans cesse de notre vieille nature pécheresse. Pour endosser cette nouvelle nature, il nous faut nous dépouiller notre nature pécheresse. Troisièmement, par notre baptême, nous témoignons et nous pouvons nous en rappeler ainsi que nous sommes morts au péché passé et que nous sommes ressuscités avec Christ. Et quatrièmement, puisque Dieu a cloué à la croix notre acte de condamnation lors de la mort de Jésus à la croix, nous avons toute la victoire sur les puissances du mal, quoi qu'il se passe. Je tiens, c'est lui qui nous conduit. Ce matin, si certains n'ont pas encore toutes ces promesses dans leur cœur, qui n'ont pas la certitude de ces promesses, je l'invite à s'abandonner à Jésus totalement, à venir nous voir si vous voulez mieux comprendre, approfondir. La parole, le pain de vie, comme disait Hélène, c'est le pain de vie. Ce pain de vie. Vous voulez prendre cette nourriture, demandez à Jésus de vous éclairer, demandez à un frère ou une sœur de nous voir. Pour mieux comprendre cette grâce infinie de Dieu. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car le temps de la grâce sur terre est encore là pour peu de temps. Et Jésus t'aime et Jésus veut te l'offrir. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole et qu'il nous édifie. Amen.
Amen. Amen.